Puis le cheikh a continué en détaillant les degrés de la religion. Donc on a vu quel était le sens de la religion, on a vu quel était le sens de l'islam, et on a vu quelle était l'obligation globale à connaître pour chacun. Puis le cheikh a commencé à expliquer donc ces différents degrés. قال المصنف رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الزخرف الآية وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc le degré de l'islam, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Le témoignage qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, donner la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj à la maison sacrée. Et ceci comme il est vu dans le hadith de Omar, de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. La preuve du témoignage dans le Coran est le verset suivant. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران verset 18. Allah témoigne ainsi que les anges et les gens doués de science qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Nul ne mérite d'être adoré à part lui, le puissant, le sage, Ali Imran. La signification du témoignage La ilaha illallah est Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. La ilaha est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah est l'affirmation que l'adoration est due à Allah seul et qu'il n'a pas d'associé dans son adoration comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Et le verset qui clarifie cette interprétation est le suivant, dans Sourate Zukhruf, versets 26 à 28, on l'a déjà lu en arabe, j'abrège, « Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car en vérité c'est lui qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Ainsi que le verset suivant, dans Sourate Ali Imran, verset 64, dans le sens, dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, musulmans. Donc le cheikh a commencé à expliquer les trois degrés de la religion. Et il a commencé par citer l'islam ainsi que ses piliers. Il a cité pour l'islam deux versets. Le verset dans Surat Ali Imran, où il y a le témoignage, Allah tabarak wa ta'ala dit qu'il témoigne ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré si ce n'est lui. Non, ça c'est la preuve de l'attestation de foi. Il a cité pour l'islam deux versets. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. La religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Et l'autre verset, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche ou qui agrée une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ceci est une preuve que la religion qui doit être suivie, c'est l'islam. La religion qui doit être suivie, c'est l'islam. Puis il a cité les piliers de cet islam, dont on a dit le sens ici qui est voulu, c'est les actes apparents. Le premier pilier, qui est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Il a cité pour cela une preuve du hadith, qui cite les cinq piliers de l'islam, que l'islam a été bâti sur cinq, et deux preuves du Coran. Il a cité d'abord le verset que l'on vient de lire, qu'Allah témoigne, ainsi que ses anges, et il est doué de science sur son unicité. Puis, il a cité d'autres versets qui détaillent ce sens-là, qui détaillent le sens de l'affirmation et de la négation, d'affirmer, de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'il ne mérite pas l'adoration, et d'affirmer que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est bien clair dans le verset où Ibrahim alayhi salatu wa salam dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. Donc ça, c'est la négation. C'est le même sens que la ilaha. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. À l'exception de celui qui m'a créé, car en vérité, c'est lui qui me guidera. Ceci est le sens de illallah. Donc on voit ici l'explication claire de la ilaha illallah. Le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que Allah est le seul qui mérite l'adoration. De même, dans le verset où, dans Ali Imran, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions que Allah. Donc ça, c'est l'affirmation. Sans rien lui associer, ça, c'est la négation. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, ça, c'est le détail de la négation. C'est-à-dire qu'on n'adore pas des personnes ou des choses en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité, il a expliqué le deuxième pilier. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Puis il a commencé à citer la preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Il a dit, et la preuve du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah est dans le verset suivant, sourate Tawbah, verset 128. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Puis le cheikh a cité, et Mohammed est le messager d'Allah signifie l'obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Croire avec conviction en tout ce qu'il a dit, en tout ce qu'il a informé. S'abstenir de tout ce qu'il nous a interdit et n'adorer Allah que par ce par quoi Allah a légiféré son adoration. C'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc voici le deuxième pilier qui est en vérité la deuxième partie de l'attestation de foi qui fait partie du premier pilier, qui est l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, cette attestation, elle est obligatoire pour quelqu'un entre en islam. Il est obligé de la prononcer, sauf s'il est muet. S'il est muet, on ne lui demande pas de la prononcer. Il écrira ou il le fera par une autre manière. Mais celui qui n'est pas muet, qui est capable de parler, est dans l'obligation de la prononcer. Sans la prononcer, il n'entre pas en islam. Même s'il croit, il doit la prononcer obligatoirement. Et ce que les gens ont l'habitude de faire, qu'il est obligé de la prononcer à la mosquée, etc., ça n'existe pas. Ça, c'est du spectacle. Hein? Ou, on va dire, c'est pour l'encourager. Allez, on va prendre ça dans le bon sens. C'est pour l'encourager. Allahu a'lam, la plupart des gens, ils le font pour le spectacle. Mais sinon, il est interdit de retarder l'islam d'une personne. Si quelqu'un vient pour entrer en islam, on n'a pas le droit de lui dire « reviens tout à l'heure, reviens au Jumu'ah ». Ça, c'est comme si on agréait qu'il reste dans la mécréance. C'est très grave. Au moment où il est prêt à entrer en islam, on lui fait faire l'attestation de foi. Directement. On lui explique les bases de l'islam et de la croyance, et on lui fait faire l'attestation de foi. Après, on lui dit, viens à la mosquée pour te présenter un imam ou quelqu'un qui va pouvoir t'expliquer ou quelqu'un qui va pouvoir le suivre, s'occuper de lui. Oui, ça, c'est nécessaire. Mais on ne retarde pas son entrée en islam. Imagine, tu retardes jusqu'à après, il meurt. Est-ce que tu agrées qu'il reste une seconde de plus dans la mécréance, alors qu'Allah déteste la mécréance. Donc dès qu'il est prêt à entrer en islam, tu l'invites à l'islam, à faire l'attestation de foi, la double attestation, directement. Bien sûr, en lui expliquant ce que cela veut dire. Parce que s'il le dit sans savoir son sens, cela n'a aucun intérêt. Il doit connaître le sens de la double attestation de foi, son sens général. Aussi, cette double attestation de foi, elle est acceptée en n'importe quelle langue que ce soit. À partir du moment où on comprend C'est-à-dire que le sens qu'il prononce est un sens juste. Celui qui dit « J'atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et Mohammed est le messager d'Allah » est devenu musulman. En français, en chinois, en n'importe quelle langue. Il n'est pas dans l'obligation de le prononcer en langue arabe. Si quelqu'un le prononce en langue arabe et ne sait pas ce qu'il dit, ce n'est pas valable. Il doit comprendre le sens de ce qu'il dit et croire fermement, en être convaincu et le dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala avec véracité. Ce n'est pas juste une parole comme ça. Et acceptation de ce à quoi cette parole appelle. Barakallahu fik. Pour cela, les gens ils peuvent revenir aux conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. Non. Donc voilà le deuxième pilier, qui est l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. On va en parler en détail dans le troisième fondement. Donc, on le passe. Puis le cheikh a dit « وَدَلِلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et la preuve de la salat et de la zakat et l'explication du tawhid est dans le verset suivant, dans sourate Al-Bayyinah verset 5, dans le sens « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. La preuve du jeûne est dans le verset suivant, sourate Al-Baqarah, verset 183, dans le sens « Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » La preuve du pèlerinage est dans le verset suivant, sourate Al-Imran, verset 97, dans le sens « C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. » Donc, il a expliqué ici le deuxième pilier, qui est la salat. Il en a cité la preuve. Donc, vous voyez bien que quand il a cité les piliers de l'islam, il a cité le hadith qui en montre la preuve, puis il a cité des versets du Coran pour chaque pilier parmi les piliers de l'islam, pour en montrer la preuve. C'est-à-dire, il n'est pas permis à quelqu'un de croire en quelque chose faisant partie de l'islam sans en avoir la preuve. Il nous montre ici une méthodologie. Pourquoi on dit que ces cinq piliers sont les piliers de l'islam? Voilà pourquoi. Voilà le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Voilà les versets du Coran qui prouvent leur obligation et le fait qu'ils font partie des obligations et des fondements de l'islam. Donc il l'a fait pour la prière. Quand il parle de la prière, ici on parle des cinq prières dans une journée et une nuit, c'est-à-dire Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha et al-Fajr. Le troisième pilier qui est la zakat, il en a cité aussi la preuve. Cette zakat qui est un pilier parmi les piliers de l'islam, c'est une zakat obligatoire précise dans les biens que l'on possède. Celui que l'on cite ici parmi les piliers de l'islam, c'est pas zakat al-fitr. La zakat de rupture du mois de Ramadan, elle est obligatoire, mais c'est pas celle-ci que l'on cite dans les piliers de l'islam. C'est pas celle qui est citée dans les piliers de l'islam. Celle qui est citée dans les piliers de l'islam, ce n'est pas celle-ci. C'est la zakat sur les biens. Celui qui possède des biens à une mesure précise, si c'est de l'or, 85 grammes d'or, si c'est des bêtes, il y a une mesure précise, si c'est des champs, etc. Ou la zakat d'un commerçant. Donc, toutes ces personnes qui ont des biens imposables, c'est-à-dire sur lesquels ils doivent donner la zakat, et qui respectent les conditions pour que la zakat soit sortie, et qu'une année égirienne est passée dessus, sauf pour les récoltes. Les récoltes, c'est pas avec les années, c'est à chaque récolte. Alors, il devra sortir la zakat. Et ceci est le pilier dont on parle ici dans les cinq piliers de l'islam. Bien que zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, est une obligation, ce n'est pas celle-ci qui est citée ici dans le pilier. Le troisième pilier qu'il a cité, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est le neuvième mois des mois lunaires, dont on n'est pas loin, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et de le jeûner et de le prier comme il agrée, subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, comme vous savez, chaque année du mois de Ramadan, pour toute personne qui en a la capacité. Donc ça rentre dans les règles du jeûne. Nous ici, dans ce livre, on n'est pas là pour expliquer les règles juridiques. Mais on est là pour comprendre les fondements, ces trois fondements qui sont nécessaires à chacun de connaître. Tout ce qui est zakat, salat, jeûne, hajj, ça c'est détaillé dans les cours de fiqh, de jurisprudence. Et le cinquième pilier, c'est le pèlerinage pour celui qui en a les moyens physiques et pécuniaires, et qui a le moyen d'arriver à la maison sacrée au moins une fois dans la vie. Donc les prières, c'est cinq par jour qui sont obligatoires, le reste ne sont pas obligatoires. La zakat, qui fait partie des piliers de l'islam, c'est la zakat sur les biens. Même si la zakat al-fitr est obligatoire, elle ne fait pas partie des piliers de l'islam, mais elle est obligatoire. Le jeûne qui est obligatoire, c'est celui qui est une fois dans l'année, un mois dans l'année, qui est le mois de Ramadan, qui se répète chaque année. Et le pèlerinage qui est obligatoire, c'est une fois dans la vie pour celui qui en a les capacités. Pour celui qui en a les capacités. Donc on voit ici qu'il y a trois piliers parmi les piliers qui sont liés à la capacité. La zakat, c'est celui qui est riche. Celui qui n'est pas riche, il n'a pas de zakat à payer, n'est-ce pas? Sauf zakat al-fitr, pour celui qui possède sa nourriture pour un ou deux jours. Mais on parle de la zakat sur les biens. Le jeûne, c'est pour celui qui est capable de jeûner. Celui qui n'est pas capable de jeûner pour un problème de santé, si c'est une maladie qui est permanente, alors il mourira. Si c'est pas une maladie permanente, il rattrapera d'autres jours. Donc, celui qui n'est pas capable, il ne jeûnera pas. De même le pèlerinage, celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'a pas la santé, il est exempté. Donc on voit que dans ces cinq piliers, il y en a deux sur lesquels personne n'a d'excuse. La double attestation de foi et les cinq prières par jour. Et c'est pour cela que celui qui délaisse une de ces deux-là n'est plus musulman. Celui qui les délaisse complètement, bon, l'attestation de foi c'est clair, mais la salat, celui qui la délaisse complètement, selon l'avis le plus juste, n'est plus musulman. Il n'a pas d'excuse de la délaisser. Allah Ta'ala a donné des règles de la faire, même pendant la guerre, même pendant la peur, même pendant la maladie. Omar ibn al-Khattab, il s'est fait poignarder et il voulait finir sa salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mourant dans son affre de mort, il dit quoi aux gens? Quel est le conseil qu'il donne? La salat, la salat, la salat. Wama malakat aymanukum, et ce que vous possédez de la voie légale, c'est-à-dire vos femmes. Donc cette salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le pacte qui nous différencie entre nous et les mécréants. Celui qui l'a délaissé a de bel et bien vécu. D'ailleurs, les hadiths qui ordonnent de ne pas sortir contre le gouverneur, ils disent tant qu'ils accomplissent la salat. Et dans d'autres hadiths, tant qu'il ne fait pas une mécréance claire. Donc, on comprend que délaisser la salat est une mécréance claire. Et subhanallah, combien de gens qui se réclament de l'islam, ils ne connaissent pas l'odeur de la salat. De leur vie, ils ne se sont jamais prosternés devant Allah. Jamais. Vous imaginez qu'Allah nous en présente. Pour ça, il est très important de préserver cette salat, qui est le pilier essentiel après la double attestation. Et c'est pour ça Allah Ta'ala a fait toutes les causes pour la préserver. Il lui a donné des horaires, des conditions, des piliers. Il a interdit pas mal de choses pour que la personne ne s'éloigne pas de salat, ne délaisse pas salat. Il a ordonné aux hommes de la faire en groupe, à la mosquée. Tout ça pourquoi? Il a facilité celui qui ne peut pas la faire debout, il la fait assis. Celui qui n'a pas d'eau, il fait tayammum. C'est-à-dire, tu n'as... Oh, pourquoi le tayammum, il a été légiféré? Les ablutions sèches. Pour pas sortir de l'heure de salat. Une condition qui sont les ablutions, normalement, c'est une condition. Sans cette condition, tu peux pas prier. Mais puisque tu as le danger de sortir de l'heure, alors il t'est permis de faire tayammum. Si tu peux pas trouver d'eau avant que l'heure sorte, tu fais le tayammum. Ça montre l'importance de prier à l'heure. Pendant la guerre, pendant que les épées se croisent, Allah Ta'ala a dit, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si vous avez peur, priez même en marchant ou sur vos montures. Même pendant la guerre, ils n'ont pas la permission de retarder la salat. Alors comment quelqu'un vient pour une excuse qui ne sont pas des excuses, il retarde la salat, il la laisse sortir de son heure. Ça c'est très grave. Allah Ta'ala a menacé ces personnes. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُمْ. Que le malheur soit sur les prieurs. Qui? Ceux qui négligent leur prière. Donc il a cité ces cinq piliers de l'islam, comme on a dit, dans le sens que l'islam sont les actes apparents. Quand il est cité avec l'iman et l'ihsan. Quand l'écrivain dit, et de le fait d'adorer Allah, adorer Allah avec ceux qu'il a légiféré. Hey, bima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ceux qu'Allah a légiféré. Le fait de légiférer est un droit exclusif à Allah. On ne dit pas, le prophète a légiféré. Même les prophètes, on ne dit pas, ils ont légiféré. Allah seul légifère. C'est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala légiférer. Personne ne peut se permettre de légiférer à part Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de ce qu'Allah a légiféré. Aucun hadith n'est venu et il est dit le prophète a légiféré. Non. Le prophète a rendu obligatoire. Le prophète a ordonné. Oui. C'est-à-dire quand il dit il a rendu obligatoire, il informe sur le statut juridique de ce qu'Allah a légiféré. C'est pas lui qui a légiféré. Quand il dit c'est obligatoire, il a rendu obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait son devoir d'expliquer le Coran. Donc, il explique que cette chose, Allah l'a légiférée, il l'a rendue obligatoire. Donc, c'est pour cela que ce droit appartient à Allah seul et à personne d'autre de légiférer.